Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Le revers de la médaille, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Somaya Dabesh et proposée par Les Pieds sur Terre. Tout de suite, voici l'épisode 4. Les athlètes sont des femmes comme les autres.
Ça fait longtemps que ça ne s'est pas étiré aussi loin. On fait voir des étoiles presque.
Contrairement à ce qu'on croit, l'entraînement, ce n'est pas toujours de l'effort intense. Et justement, Frédéric Dagé, le lanceur de poids que j'accompagne dans sa préparation olympique, est en période de ralentissement. Frédéric a diminué sa charge d'entraînement pour ne pas se fatiguer. Car nous sommes en janvier et les premières compétitions de la saison d'athlétisme vont commencer. Et avec elles, la possibilité de décrocher une sélection pour les JO de Paris. À l'entraînement, j'ai vu que tu avais un énorme tatouage dans le dos.
Oui.
Il représente quoi cet tatouage? Est-ce que tu peux me le décrire déjà?
Alors c'est une énorme tête de taureau en fait, voilà, qui prend toute la largeur de mon dos, avec deux haches un peu viking du coup qui se croisent derrière. Le taureau, pourquoi? Parce que c'est l'animal que moi j'ai vraiment apprécié, mais depuis mes très petits. Quand j'étais tout jeune, mon père m'avait emmené chez un de ses clients qui était paysan, hein, tout simplement. Et alors pendant qu'ils discutaient, moi je me suis retrouvé à me balader un peu là dans ces grands bâtiments et à tomber en fait d'un seul coup nez à nez avec un taureau, mais énorme. Il avait une tête, elle était large, un monstre. Ça m'a... j'étais subjugué, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et cet animal-là, en fait, je l'ai idéalisé, en fait. C'est voilà, cette espèce de puissance... J'ai aussi appris tout ce qui se faisait un peu en Espagne, les jeux, là, les corridas, les choses comme ça. Je me suis vraiment encore plus inspiré de cet animal en fait, qui se combat jusqu'au bout. En fait. Et en fait, j'ai assimilé totalement ça à ma maman. Ma maman était atteinte d'un cancer, tout simplement, quand j'étais petit. Je ne me souviens même pas quand est-ce que ça a commencé, tellement pour moi, j'ai toujours connu sans cheveux, sans voilà, c'était un cancer du sein, qui malheureusement était très très agressif. Alors malheureusement elle n'a pas gagné et du coup c'est vraiment pour lui rendre hommage en fait, pour rendre hommage à cette combativité qu'elle a eue pendant toutes ces années en élevant ses enfants et en combattant une maladie. Donc oui, c'est énorme, ça prend tout mon dos, mais en même temps ce qu'elle a fait c'est encore bien plus grand. Et le petit symbole du coup qu'il y a dans le crâne du taureau en fait, c'est le symbole de la force féminine en fait, voilà.
Vous l'aurez sans doute compris, Fred est un colosse au cœur fondant, qui tire sa force et son inspiration des femmes de sa famille, que ce soit sa mère, sa compagne ou sa fille. Eh bien, c'est justement de femmes que va parler cet épisode. Des femmes athlètes, qui ont été exclues pendant plusieurs années des Jeux Olympiques.
Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
Le baron Pierre de Coubertin, promoteur des Jeux Olympiques modernes, pensait que les Jeux constituaient, je le cite, « l'exaltation solennelle et périodique de l'athlétisme mâle avec l'applaudissement féminin pour récompense ». C'est au JO de 1912 qu'on voit arriver les premières concurrentes femmes.
Elles n'apprécient pas assez messieurs, j'aime mieux vous dire.
Quant aux personnes intersexes et transgenres, y elles sont encore et toujours exclues des compétitions par la Fédération internationale d'athlétisme. En fait, le sport de haut niveau a si longtemps été conçu par des hommes pour des hommes qu'on a négligé les questions spécifiques que pose l'entraînement d'un corps qui ne serait pas masculin. Yona, la lanceuse de javelot que j'accompagne également, fait partie de cette génération d'athlètes qui ont décidé de ne pas oublier leur corps de femme. Et c'est justement le sujet qui la préoccupe, alors qu'elle aussi est en train de réduire sa charge d'entraînement pour affronter ses premières compétitions.
Depuis que je suis arrivée à Nouméa, j'ai pas eu mes règles une seule fois, donc maintenant ça fait 110 jours que je suis en aménorrhée. Lorsque mon premier cycle a sauté, je me suis dit, bon, ça doit être normal parce que c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent aux sportifs de haut niveau, les aménorrhées. Il y a une gynécologue qui m'avait expliqué que quand tu es à fond dans ton sport, des fois, ton corps, il se concentre plus sur ton système musculaire que sur ton système reproducteur. Et du coup, tes règles peuvent être coupées. J'avais jamais eu de problème avec ça. En général, j'avais des cycles toujours ultra réguliers. Et là, ouf, ça s'est arrêté. Je pense que l'aménorrhée, elle a un impact sur mon système hormonal. Et que probablement, ça doit diminuer mes capacités physiques momentanément, puisque mon corps, il tourne pas bien. J'ai l'impression que du coup, ça me fait gonfler, que je fais de la rétention d'eau, qu'il y a des choses qui tournent pas aussi bien que ça devrait dans mon corps. Et en fait, c'est comme s'il y avait des symptômes des symptômes prémenstruels. Demain, j'ai rendez-vous avec une spécialiste de l'aménorrhée et j'espère qu'elle pourra m'aider à trouver une solution vis-à-vis de ça parce que j'aimerais bien être à 100% de mes moyens pour l'année olympique quand même.
Bien au-delà des difficultés de l'entraînement, les athlètes féminines ont dû affronter, comme toutes les femmes qui investissent des métiers masculins, des violences sexuelles et sexistes. Dans la trace du mouvement MeToo, et comme ailleurs, elle commence à sortir de l'ombre. Mais y a-t-il une spécificité de la violence sexiste quand elle s'exerce dans le sport de haut niveau? C'est ce que j'ai voulu comprendre en rencontrant Catherine Moyon de Bac, qui a porté plainte pour viol plus de 20 ans avant le début du mouvement MeToo, en 1991.
Je m'appelle Catherine Moyon de Bac. Je suis une ancienne athlète de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. J'ai été championne de France. J'ai été aussi championne d'Europe. Et alors que j'étais record woman du lancer de marteau, j'ai été victime d'agressions sexuelles aggravées de la part de plusieurs membres de l'équipe de France, ce qui a mis fin à ma carrière. Ma vie a volé en éclats dans ces circonstances. En fait, je n'ai pas choisi le lancer de marteau. Quand j'étais enfant et adolescente, je faisais de la danse et du piano. Parce que j'étais élevée dans un milieu très protégé, où c'était plutôt le golf, l'équitation, le tennis, des sports qui sont plus ou moins qualifiés d'élégants ou de... voilà. Et en fait, j'ai été repérée à l'école par un professeur et même par plusieurs professeurs. Donc, ce qui m'a plu, en fait, c'était de gagner, de monter sur le podium et de recevoir ma médaille. En fait, c'est ça qui m'a enthousiasmée. Je rêvais de devenir une championne, de participer aux Jeux Olympiques. Et donc, je n'avais pas la conscience de tout ce que ça représentait, en fait, sur le moment. Et le stage national d'athlétisme s'est déroulé à l'été 1991. Durant ce stage, j'ai été victime d'agressions sexuelles aggravées, au pluriel, par plusieurs membres de l'équipe de France. Au départ, c'était soi-disant un bizutage qui était téléguidé par l'entraîneur national. Il suffisait qu'ils disent « maintenant ça suffit, stop » et tout se serait arrêté. Et en fait, c'était déjà plus qu'un bizutage. Enfin, c'était déjà... les faits étaient graves dès le départ.
Catherine Moyon de Bac ne souhaitait pas raconter une fois de plus l'agression qu'elle a subie quand elle avait 26 ans. Nous avons donc convenu de vous lire des extraits du livre qu'elle a écrit. Ce récit décrit plusieurs actes de violence sexuelle. Si vous ne désirez pas les entendre, je vous invite à éviter ce témoignage. Les faits dont il s'agit se déroulent durant 4 jours. Entre le lundi 29 juillet et le vendredi 2 août 1991, près de Mâcon, où s'entraîne l'équipe de France de lancer de marteau.
Lundi 29 juillet.
Toute l'équipe est hébergée dans le même bâtiment.
Les garçons, depuis mon arrivée, font montre d'un comportement qui me met mal à l'aise. Ils laissent traîner leurs mains, et quand je proteste, se moquent de mon puritanisme. Mardi 30 juillet. Pendant la soirée, les garçons regardent une cassette vidéo de striptease. Soudain, l'entraîneur se lève, me prend par le bras et me demande de monter sur la table pour danser. Bien décidée à être irréprochable, je veux réussir ces épreuves. J'enlève mes chaussures et je monte sur la table pour danser avec deux lanceurs. Les lanceurs m'arrachent mon chemisier. Je ne me laisse pas faire. Ils s'attaquent à ma jupe en me forçant à continuer à danser. Au terme d'un délai qui me paraît interminable, l'entraîneur national demande que l'on me rende mes vêtements, que les garçons aient éparpillés. On ne retrouve pas ma jupe. Recroquevillée, je reste assise. Mercredi 31 juillet. Comme être humain, je ne compte plus. Je suis devenue une bête à concours qui doit se taire et obéir. Jeudi 1er août. Le soir, en retournant vers l'hôtel, il rit et se moque de moi. Il faut que tu baises. Qu'est-ce que tu attends pour te décider? De toute façon, tu ne seras jamais championne si tu n'acceptes pas de coucher avec moi. Je suis champion de France. Il se poste devant la porte de l'hôtel. Je finis par m'énerver. Il m'entraîne de l'autre côté de la maison. Après avoir baissé son pantalon, l'un d'eux me saisit la main et me contraint à le masturber. Puis ils me mettent à genoux de force et veulent introduire leur sexe dans ma bouche. Paralysée, traumatisée, je suis incapable de crier. Vendredi 2 août. En fin de matinée, un lanceur me croise dans le couloir et me dit qu'il veut me parler. Nous sommes à hauteur de sa chambre. Il me pousse brutalement à l'intérieur, me jette sur un lit. Le reste est trop pénible à relater. L'après-midi, je me réfugie dans ma chambre, en état de choc. Un peu plus tard, les lanceurs veulent me présenter des excuses. Ils ont l'air sincères. Ils me parlent, mais pendant ce temps-là, l'un d'entre eux ferme la porte à clé, un autre rassemble deux lits côte à côte. Lorsque je me précipite vers la porte, il m'attrape par les bras et m'entraîne sur le lit. Il me déshabille, et tandis que l'un s'occupe du haut, l'autre attaque le bas. En dépit de mes efforts, je ne peux pas me libérer de ces brutes. Dans un sursaut de révolte, je rassemble mon courage pour aller parler à l'entraîneur national. Il ne veut rien entendre et me rétorque que tout cela est naturel. Il ajoute que je n'ai pas fait les efforts nécessaires pour m'intégrer au groupe, que je n'ai pas progressé et que par conséquent, je ne peux plus m'entraîner à l'INSEP.
Qui était une jeune fille enthousiaste, heureuse de vivre, épanouie, je parlais plus. Je pensais que ma vie était terminée, je pensais d'ailleurs que j'allais mourir. Je croyais que j'irais plus jamais à Paris, que... Je me souviens, il me restait des tickets, parce que quand j'allais à l'INSEP, quand j'étais à Paris, j'avais des tickets de métro. Et en fait, j'avais jeté mes tickets de métro en disant, mais de toute façon, ma vie est terminée, j'irai plus jamais à Paris. Et je croyais vraiment que j'allais mourir. Après plusieurs semaines, même après plusieurs mois, je voulais voir le président de la Fédération française d'athlétisme parce que pour moi, il représentait l'autorité. Et en fait, le président m'a dit cette phrase, « Ma petite fille, vous êtes jeune et jolie, vous oublierez. » J'ai fait une dépression après. J'ai eu des périodes de boulimie, d'anorexie. Mais la petite Catherine, elle a refusé de mourir. Hein. Quand j'ai décidé de porter plainte, j'avais une vingtaine d'années. Et moi, j'ai parlé pour que ces crimes et ces délits n'arrivent pas à d'autres. La justice a reconnu les faits, elle a condamné les agresseurs, et pour la première fois dans l'histoire, elle a reconnu la responsabilité de l'État et la responsabilité fédérale. Il y avait trois agresseurs qui ont été tous les trois condamnés. Donc ils ont été condamnés à 20 000 francs de dommages et intérêts, mais 10 000 francs d'amende chacun. Et 15 mois de prison avec sursis.
La condamnation prononcée à l'encontre des trois agresseurs de Catherine le 19 mai 1994 sanctionne des agressions sexuelles autres qu'un viol. Et si la justice a puni les athlètes, aucun n'a pourtant été sérieusement sanctionné par la fédération. Deux d'entre eux ont même participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996.
Donc à partir de 95, voilà, je pensais qu'une nouvelle étape de ma vie allait s'ouvrir et que j'allais être protégée par les institutions et de reprendre le cours d'une vie. Mais en tant que victime, j'ai été priée de me taire et de disparaître. En revanche, mes agresseurs, les athlètes de l'équipe de France, ils ont continué à porter les couleurs de la France alors qu'ils avaient été condamnés par la justice française. Après les agressions, j'ai été qualifiée au championnat de France et j'étais en finale. Et avant la finale, des amis de mes agresseurs m'ont tourné autour en me disant, de toute façon, un jour où tu t'y attendras pas, dans un stade ou ailleurs, ce que tu as vécu, c'est rien par rapport à ce qu'on te fera. J'ai été accusée de ternir l'image du sport français pour avoir dit la vérité et résisté. Alors, en disant que c'était pas vrai. Et puis après, on a dit que j'étais tellement perturbée par ce qui m'était arrivé que j'étais incapable de travailler. Ensuite, on a dit que j'étais folle.
À côté de la procédure judiciaire, Catherine Moyon de Bac s'est battue pour revenir s'entraîner à l'INSEP. Et pour que l'entraîneur national qui encadrait le stage soit sanctionné. Des années plus tard, il subit finalement une mise à pied d'une durée de 3 mois. Il faut souligner qu'un rapport parlementaire publié à 6 mois des Jeux de Paris dénonce des comportements semblables et répétés dans toutes les fédérations sportives. Car s'il y a aujourd'hui autant d'athlètes femmes que d'athlètes hommes, il n'en est pas de même dans l'encadrement et dans les directions des fédérations.
Je m'appelle Emma Oudiou et j'ai 28 ans.
Emma Oudiou, autrefois membre de l'équipe de France d'athlétisme, fait partie de ces femmes qui essayent de faire bouger les choses.
Alors j'ai commencé l'athlète, je devais avoir une dizaine d'années à peu près. Et après je deviens officiellement sportive de haut niveau, je devais avoir 15 ou 16 ans. J'étais spécialiste du 3000 mètres steeple. Mon gros objectif, c'était Paris 2024. J'étais en très bonne voie pour y participer, mais j'ai décidé d'arrêter ma carrière avant. En 2020, j'ai fait une grosse dépression. J'arrive en clinique psychiatrique, je vois une psychiatre qui a mis les mots de dépression sévère. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est un petit coup de mou, j'en ai vécu plein. Je suis sportive de haut niveau, donc c'est normal que ce soit dur, mais no pain, no gain, je vais y arriver et on va passer. Et puis de toute façon, mon objectif de vie, c'est d'aller aux Jeux Olympiques, donc ça va aller. Et ça n'a pas du tout été. Je suis restée dans cette clinique 7 mois. Alors j'ai déconstruit donc tout ce qui s'est passé dans le haut niveau. J'ai mis des mots, les mots de violence en fait et de maltraitance. Donc j'ai été victime d'agression sexuelle, c'était en 2014, donc j'avais 19 ans. Ça s'est passé au championnat du monde junior, donc au championnat du monde des moins de 20 ans. Ça se passe aux États-Unis. Et donc au moment de ma finale, enfin juste avant ma finale, je m'échauffe. Et en fait, j'étais chapeautée par un entraîneur de l'équipe de France, qui a 50 ans, qui est là depuis des années, et il sait en fait le mec qu'il est installé. Et donc, il s'est permis beaucoup de choses. Donc, ça commence par des mains sur les hanches, me prendre autour de la taille. Après, ça commence à être un bisou dans le cou, des mains aux fesses, ça a été coller son bassin contre mes fesses, enfin vraiment horrible. Enfin, j'ai 19 ans, j'ai ma première finale mondiale dans 20 minutes. Et donc après, je commence à aller vers le stade, je me sépare de ce mec-là et je me mets à pleurer. Je fais une finale qui est absolument catastrophique. Et en 2018, ça fait donc 4 ans depuis cette agression que je suis toujours en contact très régulièrement avec ce coach national qui m'a agressée. Dans un entraînement, je me retrouve en tête-à-tête avec lui et en fait, ça fait tout remonter. Et je me dis, là, c'est pas possible. Parce qu'en 2018, il y a eu MeToo, et je comprends que ce qui s'est passé, c'est des agressions sexuelles. Je décide de porter plainte, puis après, il y a des commissions disciplinaires, et puis il y a un classement sans suite de ma plainte. L'entraîneur a une première fois été sanctionné, puis il a fait appel de la décision, la sanction a été levée, et voilà.
Au-delà de sa plainte, Emma Oudiou a élargi sa réflexion à d'autres types de violences sexistes, car elle a également été victime de troubles alimentaires. Un phénomène répandu chez les athlètes en général et chez les femmes en particulier.
Alors au début, ça s'est très bien passé parce que j'avais un corps, j'avais mon métabolisme qui éliminait hyper bien et donc pas de problème de masse grasse trop importante ou voilà, j'avais pas de soucis. Et je pense qu'avec l'âge, je prenais un petit peu plus de gras. Je stockais un tout petit peu plus, mais vraiment, c'est des trucs infimes, quoi. Et donc, avec l'âge, on m'a demandé, voilà, Emma, ce serait bien que tu perdes 1 ou 2 kilos. Et donc, je commence à vouloir essayer de perdre un peu de poids. Par exemple, je mange moins de féculents. Et puis après, je vais supprimer toutes les petites sucreries, les petits trucs qui me faisaient plaisir. Et puis après, ça en devient, bah, les fruits, c'est du sucre, en fait. Donc, bah, j'arrête les fruits. Ou alors, on va aller courir et puis... Est-ce que j'ai suffisamment d'écart entre mes cuisses? Ah non, là, mes cuisses, elles se frottent. Ma prochaine compétition, c'est sûr, je vais la louper. Mais des trucs, mais hallucinants. Et donc, ça crée un effet de groupe. Et je me rappelle qu'il y avait des footings aussi où on parlait que de bouffe, quoi. Je me rappelle, c'était en 2018, donc là où je participe à mes premiers championnats d'Europe senior. Et je m'étais restreinte de fou. Et je fais ma compétition. On va faire la fête et à 5h du mat, ma seule idée, c'était trouver un McDo, c'était à Berlin, trouver un McDo ouvert à 5h du mat à Berlin. Mais c'était obsessionnel. Aujourd'hui, je fais 2 choses. Donc je suis sur les réseaux sociaux, je crée du contenu pour sensibiliser aux violences et à côté de ça, je travaille à mi-temps chez Decathlon. J'étais sportive de haut niveau, donc j'avais un certain statut. Quand on me disait « tu fais quoi dans la vie, je suis sportive de haut niveau », à tout de suite, ah waouh. Et maintenant, quand on me demande « je travaille chez Decathlon », forcément, ça vend moins du rêve. J'ai dû me réinventer complètement. Toute mon identité reposait sur le fait d'être sportive. Ça a été des deuils aussi, de faire le deuil des Jeux Olympiques. Donc j'ai dû faire ce deuil-là et avoir un discours que j'aurais jamais pensé avoir, quoi. Cette culture de « il faut toujours se donner plus à l'entraînement », c'est bien d'être dans la douleur, c'est bien de finir une séance en vomissant, c'est bien de s'arracher, c'est bien de mourir sur la piste, c'est des mots qu'on entend vraiment, de mourir sur la piste, ça c'est bien. C'est des choses qui entraînent de la maltraitance physique, mais en fait on s'auto-maltraite physiquement, quoi. Il faut se poser la question pourquoi. Pourquoi est-ce que j'accepte cette souffrance? Est-ce que souffrir à tous les entraînements, c'est utile? Et même, pour aller plus loin, pourquoi la performance, en fait? Pourquoi vouloir toujours battre des records? Pourquoi vouloir se sentir au-dessus? Pourquoi la compétition Je parle de performance dans le sport, mais il y a la performance, on est dans une société de performance. Et je me pose réellement des questions quand on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur plein d'aspects, politiques, sociales, écologiques. On voit qu'on fait trop, c'est trop en fait. C'est trop, tout nous mène à croire qu'il faudrait toutes et tous se calmer, faire moins, faire mieux, faire plus lentement. Et cette ivresse de la performance, faut la soigner en fait, faut se soigner.
C'était Le Revers de la Médaille, épisode 4. Les athlètes sont des femmes comme les autres. Une série d'Adila Benedjaizou, réalisée par Somaya Dabesh et mixée par Dali Yaha, avec une musique de Gilles Lavanin. À suivre.